9h-10h, France Bleu Champagne Ardennes, les experts.
Chaque jour, un expert de Champagne Ardennes qui répond en direct à vos questions. Aujourd'hui, un ingénieur santé, sécurité au travail. Bonjour Émilie Charton.
Bonjour.
Vous travaillez pour l'APAV. Qu'est-ce que c'est l'APAV?
Alors l'APAV, c'est un bureau de contrôle, un organisme de conseil, un organisme de formation, avec aussi des prestations de laboratoire. On a un organisme qui va accompagner les entreprises et collectivités dans leur maîtrise des risques. Alors que ce soit les risques techniques, les risques humains, les enjeux environnementaux aussi. On est un partenaire des entreprises et des collectivités.
Donc vous faites de la formation d'employés élus, par exemple pour le CHSCT, des formations de cadres aussi, de direction, donc soit directement à l'APAV, soit vous allez en entreprise.
Donc moi effectivement, en tant qu'intervenant de la partie conseil de l'APAV, je peux être amené à faire des missions sur le terrain, en accompagnement des entreprises, des missions diverses, d'évaluation de risque, d'aide à la rédaction de documents, et je suis aussi amené à faire de la formation, donc que ce soit chez le client directement ou chez nous en agence.
Mais honnêtement, vous êtes de quel côté? Du côté de l'employé ou du côté du patron?
Alors, je n'ai pas à être d'un côté ou de l'autre, j'ai juste à être objective. Et mon métier, c'est la prévention, éviter notamment les accidents de travail pour ce qui va nous concerner dans la discussion d'aujourd'hui.
Et oui, c'est un enchaînement facile. Les accidents de travail, avec toutes vos questions, bien sûr, que vous soyez employé ou employeur, 03 26 50 81 81, c'est entièrement gratuit et vous pouvez intervenir dans cette émission. Romain de Suippes, on va commencer avec sa question qui nous est parvenue par mail. Romain de Suippes nous dit « Je travaille en tant que dépanneur pour un fournisseur d'électricité. Souvent sur la route, pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence entre un accident de travail et un accident de trajet ?» C'est vrai qu'on entend souvent les deux, mais qu'est-ce qui correspond à quoi ?
Alors en fait, un accident de trajet, c'est un accident de travail un petit peu particulier, puisque c'est l'accident qui va survenir entre la résidence du salarié et son lieu de travail. Alors quand on dit résidence, ça peut couvrir plusieurs situations. Ça peut être la résidence principale du salarié, ça peut être une résidence secondaire stable, ça peut être aussi un tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des raisons d'ordre familial.
Donc entre la maison et le travail.
Voilà, mais ça peut être aussi entre le lieu de restauration et le travail, du moment où le lieu de restauration est régulier et fréquent. Voilà. Ce n'est pas systématiquement tous les jours, mais il faut que ça soit régulier.
Donc ça peut être le midi, ça peut être le matin, ça peut être le soir.
Voilà.
On dit souvent que l'accident de trajet, pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il soit direct. Alors si on va chercher les enfants à l'école, qu'on fait un petit détour, si on passe par le centre commercial ou par la boulangerie, est-ce que du coup, si on a un accident de trajet, c'est plus considéré comme tel?
Alors, on va parler de trajet normal. Donc, il y a des détours qui vont être possibles, des détours pour des raisons familiales, pour des raisons de la vie courante. Ça peut être, comme vous le disiez, emmener un enfant à l'école, à la crèche, à la nourrice. Heureusement, on n'est pas obligé de trouver une école pile-poil entre son domicile et son lieu de travail habituel, simplement.
Donc, ça rentre quand même dans un accident de trajet. Quelle est l'indemnisation, du coup, dans ce cas-là? Elle est moindre qu'un accident de travail?
Alors non, pour le salarié, ça ne change rien. Qu'on soit en accident de trajet ou en accident de travail, l'indemnisation, la prise en charge sera la même. Ce qui va changer, c'est pour l'employeur. En termes de cotisation, de part à payer par l'employeur, elle sera plus faible pour l'accident de trajet que pour l'accident de travail.
Donc l'accident de trajet, c'est domicile-travail. Si on a une voiture de société, qu'on est commercial par exemple, et qu'on part de chez soi avec la voiture de société pour aller chez un client directement, c'est quoi ça? C'est accident de
trajet? Dans ce cas-là, on est dans l'accident de travail.
Donc ça veut dire, par rapport à l'indemnisation...
Pour le salarié, ça ne change rien. C'est pour l'employeur que ça va changer en termes de part à payer, simplement.
Parce que l'accident de travail, plus il dure longtemps, plus il coûte à l'employeur?
Alors après, il y a un autre paramètre. Effectivement, la durée de l'arrêt de travail. Puisque quand on va parler d'accident, on peut avoir l'accident sans arrêt de travail et on peut avoir un accident avec arrêt de travail. Donc avec arrêt de travail, c'est à partir du moment où il y a plus de 24 heures d'arrêt. Et plus l'arrêt va être long, plus la somme à payer par l'employeur va être importante. Et ce, sur plusieurs années. Ça va s'étaler sur 3 ans.
Mais pour la personne donc, qui a un accident dans sa vie personnelle, comme accident de trajet ou travail, ça ne change pas grand-chose?
Alors attention, accident de la vie courante, comme on va dire. Là,
si on prend sa voiture un samedi pour aller en course de chez soi...
Là, c'est un accident de la vie courante, il n'y a absolument aucun rapport avec l'entreprise.
Mais du coup, là, il n'y a pas d'indemnisation?
Alors,
y a pas
exactement. Ouais. La prise en charge va être complètement différente. Il n'y a pas d'indemnisation versée par la sécurité sociale ou par l'employeur.
Quels sont les démarches si on a un accident de trajet, notamment pour le faire reconnaître? Est-ce qu'il y a des délais?
Alors, ce qu'on peut conseiller, c'est systématiquement de le déclarer le plus rapidement possible à son employeur, puisqu'on on dit généralement qu'on a 24 heures hein, pour le déclarer à l'employeur. L'employeur qui, lui, va avoir 48 heures pour le déclarer officiellement à la Sécurité sociale. Donc, vraiment, déclarer le plus tôt possible pour être sûr de les délais légaux.
Accident de trajet, on parle beaucoup et on pense beaucoup à la voiture, mais pour ceux qui viennent à vélo, à roller, à pied, ça marche aussi?
Ça ne change rien, je me casse la figure sur le trottoir en sortant de chez moi pour aller au travail ou en rentrant du travail, ça sera un accident de trajet.
Donc là, il faut ensuite prévenir son employeur. Ouais. Si l'employeur dit « ouais, tu t'es juste foulé la cheville, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on doit faire ?»
On essaye d'insister un petit peu pour que l'accident soit quand même déclaré. Après, c'est la Sécurité sociale hein, qui peut contester l'accident ou pas, si il y a des doutes sur la véracité des faits, sur les circonstances, mais on va demander à son employeur de le déclarer systématiquement.
03 26 50 81 81, toutes vos questions sur les accidents de travail, posez-les maintenant hein, à Émilie Charton, ingénieure santé, sécurité au travail. Que vous soyez employeur ou employé, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Lilian Renaud, le voici sur France Bleu Champagne Ardenne avec son tout nouveau titre, Savoir dire merci.
Passe, passe, le bonheur joue à cache, cache, parfois la vie me dépasse, et pourtant je souris. Je passe tous les jours par la même place, on défigure, on me froisse, et pourtant je souris. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut. Savoir dire merci. Trace, trace, il faut vite prendre ta place avant qu'on ne te remplace. On court derrière sa vie. J'efface mes revers de manche, laisse passe les distances qui nous terrassent. Je souris tant que je suis. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut. La grâce s'enfuit, faut savoir dire merci.
C'était Lilian Renaud sur France Bleu, Champagne-Ardenne. Les experts, votre émission de conseil et de service. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Émilie Charton, ingénieure santé sécurité au travail pour l'APAV, organisme de formation et d'audit. Posez toutes vos questions sur les accidents de travail dès maintenant, 03 26 50 81 81. Direction Villers-Allerand. Bonjour José.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Ben voilà, j'étais accidenté quand j'étais à l'armée. Et j'ai eu l'épaule arrachée. Et j'ai pas été dédommagé.
Et c'était en quelle année, ça, quand vous étiez à l'armée ?
C'était en 75.
Ah oui, ça remonte à du temps. L'épaule arrachée, dans quel contexte ?
J'étais dans un centre d'entraînement commando.
Oui.
Ben, j'y vais, j'ai fait un an là-haut. Et on descendait à la roulette à 80 km/h. Et quand on arrivait en bas, on arrivait dans les gravillons, dans les gravés, et on faisait un roulé-boulé.
Oui.
Et donc les graviers étaient mal retournés et tout, et donc c'est comme si j'arrivais sur du béton, et automatiquement j'étais projeté. D'abord, je suis tombé dans les vapes, je me suis réveillé à l'hosto.
Donc il y a eu une invalidité aujourd'hui suite à ça ?
Non, j'ai essayé de me renseigner, j'ai même pas de livret militaire, rien du tout.
Émilie Charton.
Oui, alors. Bon, le système de l'armée, c'est un système un petit peu particulier, hein, que je maîtrise pas forcément. Mais dans tous les cas, là, je pense qu'on peut dire que de toute façon, il est trop tard. Hein, un accident survenu en 75, c'est évidemment trop ancien. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, le salarié, de manière générale, a 24 heures pour déclarer un accident, hein, et l'employeur 48 heures. Donc même avec des recours un petit peu exceptionnels,
il y a eu l'hospitalisation, c'était peut-être compliqué pour José, surtout s'il était inconscient de faire ça dans les 24 heures.
Alors je suis bien d'accord. Là, honnêtement. Le système de l'armée, c'est quand même un système un petit peu particulier que je maîtrise pas forcément. Mais c'est vrai que ce genre de sujet, il faut s'en occuper quand même assez rapidement, traiter les choses.
Et pourquoi vous avez attendu autant de temps, José,
pour lui, c'est que l'épaule, elle commence à se paralyser et tout ça. C'est comment ça.
Oui, c'est les conséquences longtemps après de ça.
D'où l'intérêt là de signaler rapidement la moindre blessure, même ce qu'on peut qualifier un petit peu de bobo, un choc, une petite coupure, une petite blessure. C'est important de le signaler dans l'entreprise, notamment si dans votre entreprise vous avez des registres d'accidents bénins. Ça c'est vraiment très important.
Donc c'est quand il n'y a pas d'arrêt de travail.
Voilà, c'est la petite bobologie. Ouais. Alors les registres d'accidents bénins sont soumis à autorisation de la CARSAT notamment.
Oui, la caisse de retraite du régime
d'assurance général, retraite et de santé au travail, voilà. L'intérêt de ces registres, c'est de noter tout ce qui est bobo, comme ça. S'il n'y a pas d'aggravation de la blessure, et ben c'est tout, voilà, on l'a tracé, on l'a noté. Si jamais la blessure s'aggrave et qu'on a des conséquences importantes pour le salarié, le petit bobo pourra être déclaré un accident de travail, même si le fameux délai des 48 heures est passé, puisqu'on a une preuve, on a une trace écrite sur ce fameux registre.
Donc c'est vraiment ce registre, un simple mail en disant voilà, j'ai porté aujourd'hui des charges lourdes au travail, j'ai mal au dos, ça fait deux jours. Un simple mail à son cadre, ça suffit pas ?
Alors ça marchera pas pour que l'accident passe en accident de travail. Faut faire les choses dans les règles.
Donc c'est un registre manuscrit alors.
C'est un registre, un cahier des accidents bénins qui va être tenu dans certaines entreprises sous accord de la CARSAT. Il y a certaines conditions, il faut notamment des SST, de sauveteurs secoueurs de travail, dans l'entreprise.
Donc ce registre, on le trouve où ? Dans la trousse à pharmacie ? Dans le bureau du directeur ?
Généralement, il faut se renseigner auprès des SST, sauveteurs secoueurs du travail, qui eux vont le remplir, ce fameux registre. On ne le remplit pas directement soi.
D'où l'intérêt d'anticiper et de savoir d'ores et déjà, même s'il n'y a pas de problème, que
de
ça existe et où il se trouve.
Exactement, le fonctionnement de l'entreprise.
Pardon, si José, qui a son problème, va voir aujourd'hui, 40 ans après, le médecin du travail, ça fera rien, c'est vraiment trop long.
Alors, j'ai pas eu à rencontrer ce cas, mais je pense que effectivement le délai est beaucoup trop long.
Bon, José, apparemment, il aurait fallu s'en occuper plus tôt pour le faire reconnaître.
C'est pareil, j'ai retravaillé après en venant de l'armée, et en 88, je suis tombé du toit de 5 mètres de haut, sur le dos, j'ai des fractures lombaires.
Oui.
Et bon, ben c'est pareil, je sais plus s'il n'y a pas eu de suite parce que ben c'est pareil, ben je croyais que ça se faisait automatiquement. Et puis à la fin du compte, maintenant, ben, le patron est décédé, l'entreprise est dissoute et tout ça. Ben,
ah, c'est
ben
oui.
Ouais.
C'est le problème, toujours ce temps, effectivement, déclarer, tracer toutes ces choses-là, c'est important.
Donc s'en occuper vraiment tout de suite, José, c'est ce que vous auriez dû faire pour que ça soit pris en compte. En tout cas, votre malheur a le mérite d'apporter la précision dans cette émission. Donc 24 heures, c'est le délai pour le salarié.
Pour déclarer,
ça
le déclarer à l'employeur, et après c'est l'employeur qui fait la déclaration officielle à la Sécurité sociale.
Si on est hospitalisé pendant ces 24, 48 heures ou pendant une semaine.
Bah là, l'employeur est forcément au courant de la situation. Ouais. Hein, ça me paraît difficile de passer à travers quand on a un salarié hospitalisé. Donc c'est l'employeur et souvent les ressources humaines qui vont faire les déclarations.
03 26 50 81 81. On parle des accidents de travail avec toutes vos questions dès maintenant sur France Bleu. Particulier sur France Bleu Champagne-Ardenne.
Jusqu'à 10h, France Bleu Champagne-Ardenne, les experts.
L'expert du jour, c'est Émilie Charton, ingénieure santé sécurité au travail pour l'APAV sur les accidents de travail. Émilie Charton, quelles sont les principales causes d'accidents de travail en 2016 ou en 2015 en France?
Alors, on trouve régulièrement les mêmes causes. On va avoir en première cause d'accident de travail avec arrêt tout ce qui va concerner les manutentions manuelles, donc le fait de porter des charges, de pousser, de tirer, de déplacer des charges. Ça va représenter à peu près un tiers des accidents de travail avec arrêt. Entre autres, par exemple. Donc ça va représenter un bon tiers des accidents. On va avoir aussi
arrêt
supérieur à 24 heures. Ouais. Et on va avoir également les chutes. Alors que ce soit les chutes de plein pied ou les chutes de hauteur qui vont être la deuxième cause d'accident du travail avec arrêt.
Ça se passe essentiellement dans l'industrie ou même dans les bureaux?
Tout secteur confondu. Ouais. Hein, dans un bureau, une barre de seuil qui dépasse, je me prends les pieds dedans, c'est une chute de plein pied. En fonction de la gravité, on peut être en accident avec arrêt ou pas.
Donc, la manutention et les chutes en deuxième position.
En accident de travail avec arrêt, les accidents avec arrêt, en 2014, il y en a eu à peu près 621 000 déclarés en France, ce qui nous fait quand même à la louche, un accident avec arrêt toutes les 10 secondes en France.
Ah oui?
Ah oui, on est dans des chiffres très importants, effectivement. Ouais.
Tout ce qui est accident routier, ça représente beaucoup ou pas ça?
Alors, le risque routier, ça va être la première cause d'accident mortel au travail. Ouais. Loin devant les autres, pour tout ce qui est accident mortel, on a les accidents accidents routiers et les chutes de hauteur. Donc on retrouve toujours ces mêmes thèmes de chutes. En 2014, il y a eu 530 décès en accidents du travail proprement dit, déclarés en France, selon les chiffres de la Sécurité sociale.
Ouais, c'est énorme. Mais rien qu'un accident de travail avec arrêt toutes les 10 secondes, c'est énorme.
C'est pour ça qu'en termes de prévention, il ne faut pas se dire que c'est un accident bête, que le salarié avait juste à faire attention. En matière de prévention, l'accident, on va l'analyser pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et pas se contenter des causes qui paraissent évidentes. Le salarié n'a pas mis ses gants.
C'est la sécu qui vient au travail analyser ce qui s'est passé.
C'est à l'employeur, c'est à l'entreprise de le faire en collaboration avec le CHSCT, par exemple. Analyser donc pour comprendre les causes profondes, ne pas se dire il s'est coupé, il a qu'à mettre ses gants et puis ça sera réglé. Quand on va analyser un accident, on va se rendre compte qu'il y a des facteurs techniques liés aux équipements, aux machines par exemple, des machines non conformes peuvent être à l'origine d'un accident. On va avoir des facteurs organisationnels, la prévention, l'organisation, les procédures à suivre, et puis des facteurs humains en termes de formation, de sensibilisation, de comportement des personnes par exemple.
Une question de Babette de Bonny-sur-Meuse. En cas d'accident de travail, qui est pénalement responsable? L'employeur, pour le manque de sécurité, ou alors le salarié, s'il a fait une erreur de manipulation ou de non-respect des procédures? Est-ce qu'un salarié peut être sanctionné pour un accident de travail?
Alors effectivement, quand on va se poser la question de la sécurité dans l'entreprise, on va se rendre compte que dans l'entreprise, tout le monde peut être pénalement responsable. Tout va dépendre des circonstances de l'accident. Alors évidemment, on pense en premier lieu à l'employeur, qui lui est responsable de la sécurité.
Il faut qu'il ait mis tout en œuvre et que ça soit prouvé que...
Alors, en matière de sécurité, l'employeur a une obligation de résultat. Il doit mettre en place l'organisation nécessaire pour éviter les accidents de travail, les maladies professionnelles. Mais on peut avoir aussi les hiérarchiques qui sont responsables s'ils ne s'assurent pas que les salariés qu'ils ont sous leur responsabilité respectent bien les procédures. Par exemple, les agents de maîtrise, les chefs de chantier, par exemple. Mais il ne faut pas oublier, il faut être bien conscient que l'ensemble des salariés, on peut tous être aussi concernés pénalement. Alors, il faut tout de même remplir trois conditions. Première condition, avoir été formé aux procédures et consignes de sécurité. Deuxième condition, que les équipements mis à notre disposition soient bien conformes. Troisième condition, que les EPI nous soient fournis.
Et donc, EPI, équipements,
les équipements de protection individuelle,
les gants, casques, les lunettes.
Ouais. Voilà, exactement. Donc là, il faut bien avoir en tête qu'un salarié qui enfreint clairement une règle ou qui chante une sécurité sur une machine, en cas d'accident, peut voir sa responsabilité pénale engagée.
Même sans accident, pour ça, il peut être viré.
Alors après, c'est les sanctions internes, les sanctions disciplinaires internes, effectivement, pour comportement fautif, non-respect des procédures, non-respect du contrat de travail ou du règlement intérieur, par exemple.
Si les règles existent, c'est pas fait pour rien.
Exactement.
Et c'est pour le bien de tous. Est-ce qu'un directeur qui n'a pas respecté, justement, parce que peut-être le CHSCT lui a signalé des choses et que rien n'a été fait, est-ce qu'il peut risquer de la prison, une amende?
Alors, quand on parle de sanctions pénales, on va avoir des sanctions financières, des sanctions d'emprisonnement, des peines de travaux d'intérêt généraux par exemple, des affichages publics de la décision, les sanctions peuvent être diverses. Et effectivement, on peut imaginer des sanctions d'emprisonnement hors ferme ou avec sursis.
Dans un instant, on aura la question de Claire sur un accident de travail qui n'a pas été déclaré. La question de Claire de Sainte-Menou, c'est dans 3 minutes.
France Bleu. Notre patrimoine.
Industriel.
Gastronomique.
Culturel.
Artistique.
Naturel.
Écologique.
Le patrimoine s'invite sur France Bleu Champagne-Ardenne toute la semaine à 12h35 autour des richesses de notre territoire.
Spécialité locale.
Monuments historiques.
Terroirs et traditions. Notre patrimoine.
Découvrez ce qui fait l'identité de notre région.
Le patrimoine de Champagne-Ardenne avec Pauline Godard du lundi au vendredi 12h35 dans France Bleu Midi.
En replay et podcast sur francebleu.fr.
Événement France Bleu Champagne-Ardenne.
Mathieu Madelion revient avec un tout nouveau spectacle, encore plus drôle et personnel que le précédent.
Elle avait un truc particulier, la fille de Metz, elle embrassait les yeux ouverts. Et ben je sais pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse, si tu les laisses ouverts, t'as l'air d'un psychopathe.
Gagnez vos places en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne.
Je pense que si la démocratie française compte sur Mathieu Madelion pour la sauver, on est dans la merde.
Qui décape, Mathieu Madelion, arrive sur la scène du cas Attinqueux, vendredi 4 novembre à 20h30.
Toutes les informations sur le-k-reims.com.
France Bleu présente la nouvelle tournée de Zaz.
Après sa grande tournée mondiale à travers les 5 continents, Zaz reprend la route en France pour présenter ses chansons cultes et son album Paris, hommage à la ville qui l'a révélé musicalement. Après deux concerts complets à l'Olympia, retrouvez le nouveau spectacle de Zaz au Zénith de Paris le 9 novembre et en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu.
Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell, I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Goodbye my lover, c'était James Blunt sur France Bleu Champagne Ardenne. Émilie Charton, ingénieure santé sécurité au travail pour l'APAV, répond à toutes vos questions sur les accidents de travail. Et on a la question de Claire de Sainte-Menou. Claire travaille dans une cantine. Il y a 3 semaines, un collègue, sans faire exprès, lui a fait tomber une marmite sur le pied. Claire avait la cheville enflée, mais sans arrêt de travail. Elle est allée voir son cadre, qui lui a dit « c'est rien ». Et elle doute que l'employeur ait déclaré cet incident. Ou accident.
Accident, il y a une blessure, on parle d'accident.
Comment vérifier que ça a été déclaré, même s'il n'y a pas eu d'arrêt? Ou qu'est-ce que Claire aurait dû faire au moment où c'est arrivé il y a 3 semaines?
Alors, vérifier que ça a été bien déclaré, c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein, mettre en doute la parole de l'employeur.
Parce qu'on n'a pas de courrier automatiquement, nous, en disant non, votre accident a bien été enregistré.
Non. Bon, non, là, on est dans le cadre d'un accident sans arrêt de travail, donc il n'y a pas forcément de papier. Après, éventuellement, demander le double de la déclaration pour voir si ça a été fait ou pas. Mais les circonstances qui nous sont rapportées indiquent bien la notion d'accident, hein, puisqu'on a une blessure qui a lieu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, lors d'une situation en rapport avec l'activité professionnelle, donc on est dans la définition de l'accident de travail. Et il faut surtout se dire que même s'il n'y a pas d'arrêt, le fait de le déclarer, de le tracer, ça permet aussi de se poser la question de la prévention. Oui. Parce que là,
elle
nous dit que son collègue n'a pas fait exprès, ça, on veut bien évidemment le croire, mais il y a peut-être d'autres causes. La casserole était peut-être trop lourde, il n'y avait peut-être pas de poignée, il n'y avait peut-être pas de chariot de manutention. Est-ce qu'elle avait des chaussures de sécurité ou pas pour se protéger? Est-ce que... On voit qu'il y a
donc
toujours
un cadre
plusieurs pistes.
Qui ne prend pas ça au sérieux n'est pas un bon cadre.
Ah bah non, forcément, les conditions de travail.
Faut appeler un chat.
Pas un bon cadre, c'est difficile de juger, mais il ne faut pas mettre de côté les conditions de travail, la sécurité, la prévention. C'est important pour le salarié, déjà, pour son intégrité physique, se préserver, mais c'est aussi important pour l'entreprise. Hein. Les conditions de travail, l'absentéisme va avoir un impact sur le fonctionnement de la société.
Entre un accident domestique à la maison et un accident de travail, qu'est-ce qu'un accident de travail change vraiment pour la personne qui est concernée? Elle peut partir à la retraite, elle peut avoir une indemnité, enfin c'est quoi le...
Alors ça sera la prise en charge de tous les examens médicaux liés à l'accident.
Par l'employeur, du coup
par l'employeur, donc la sécurité sociale. C'est vraiment une prise en charge complète. Et en cas de rechute, pareil, hein, les conséquences qui seront prises en charge. Alors qu'à la maison, on se fait mal, on se débrouille, hein, c'est soi-même.
Donc Claire, ce qu'elle aurait dû faire, c'est le faire noter dans ce fameux registre à disposition de tous les salariés pour les accidents bénins.
Alors si ce fameux registre existe, oui. Même si là, la cheville qui enfle, c'est plus qu'un petit... on pourrait imaginer que c'est plus qu'un petit bobo.
Elle aurait dû aller donc voir son médecin généraliste et le dire? Et lui dire, voilà, il m'est arrivé ça au travail, faites-moi un mot, une attestation, non.
Alors, le médecin généraliste, il n'y a pas forcément lien direct entre le médecin traitant et le contexte professionnel, ouais. Mais d'après ce qui nous a été rapporté, au moins que l'accident soit déclaré, pour voilà, si jamais ça s'aggrave, s'il y a des suites, qu'on puisse faire le lien avec l'activité professionnelle.
Si on a un malaise cardiaque sur le lieu de travail, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail?
Alors je vais encore faire une réponse de Normand, hein. Tout va dépendre des circonstances, hein. En cas de malaise cardiaque et malheureusement de décès éventuellement du salarié, là il y aura des enquêtes qui pourront être menées, alors en fonction des circonstances, par la gendarmerie, par l'inspection du travail, et en fonction des éléments recueillis, l'accident pourrait être qualifié comme accident du travail ou pas. Tout va dépendre des circonstances.
J'avais vu passer dans l'actualité il y a quelques semaines le cas d'une fille qui travaillait dans des bureaux, qui avait une trentaine d'années, qui avait tous les symptômes de l'AVC. Son responsable n'a pas souhaité appeler les pompiers tout de suite en disant ça va passer, etc. Et en fait, la fille est décédée.
Ouais.
Là, pareil, au moindre doute, il faut appeler les pompiers.
Alors là, on s'écarte même de la notion d'accident de travail. Hein, c'est la secours aux personnes. Hein, donc ouais. Oui, en cas de doute, on appelle les secours, on fait une prise en charge classique, hein, comme si ça nous arrivait à la maison. Hein,
mais est-ce qu'un... collègue, si j'ai moi un collègue qui se sent pas bien, est-ce que je peux dire, allez, monte dans ma voiture, je t'emmène à l'hôpital, ça ira plus vite qu'appeler les pompiers?
Alors ça, non, pas du tout. Hein, on va préférer toujours une prise en charge hein, par les personnes compétentes. Faut bien voir que si vous emmenez votre collègue directement à l'hôpital et qu'il fait un malaise dans votre véhicule, eh ben vous pourrez être tenu pour responsable.
Donc appeler les pompiers.
On passe toujours par les secours. Ouais.
Qu'on soit en milieu rural, en milieu urbain, même si notre entreprise est à 70 mètres de l'hôpital, vaut mieux appeler les pompiers.
C'est toujours conseillé de passer par les secours officiels.
Bon, voilà qui est dit. On va terminer avec les maladies professionnelles.
Ouais.
C'est quoi ça, les maladies professionnelles? Par rapport aux accidents de travail, ça peut être connu après, ça peut être...
Alors, la différence entre la notion d'accident de travail et la notion de maladie professionnelle, c'est l'élément de soudaineté. Un accident de travail, ça arrive à un instant T, c'est soudain. La maladie professionnelle, elle va être liée à l'exercice répété de la profession, la répétition de certains mouvements, la répétition de l'exposition à certains produits, par exemple... Et donc, pour que la maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, il y a plusieurs situations, mais il faut, par exemple, que la maladie soit reconnue comme pouvant être d'origine professionnelle. Et ça, il va exister des tableaux, une liste de maladies qui peuvent être reconnues comme d'origine professionnelle. Et dans chacun des tableaux, on va avoir des critères bien précis pour faire le lien entre l'activité et la maladie ou prouver l'absence de lien.
Elle est grand public, cette liste, on peut la retrouver où?
Alors, elle est directement accessible sur le site de l'INRS, par exemple, hein, l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Vous pouvez la retrouver dans l'onglet base de données, tableau de maladies professionnelles. On a accès directement au tableau de maladies professionnelles pour le régime général, mais aussi pour le régime agricole.
Dans la région, c'est quoi les maladies professionnelles les plus courantes? C'est les viticulteurs par rapport aux produits phytosanitaires? C'est quoi?
Alors, j'ai pas forcément les chiffres précis de la région, mais de manière globale, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sont la première cause de maladies professionnelles reconnues en France. Donc, tout ce qui est syndrome du cale carpien, les tendinites.
Donc, y compris pour ceux qui travaillent devant un ordinateur, il y a ces
Bien sûr, personnel administratif.
Non, parce qu'on pense souvent que le personnel administratif n'est pas concerné par tout ça.
Ah, non,
en fait,
non,
ce sont
non.
les plus concernés.
Alors, le plus concerné, on peut pas forcément dire ça, mais une secrétaire vers 40, 45, 50 ans, le syndrome du cale carpien, ça fait partie des pathologies relativement fréquentes pour ce type d'activité.
On a énormément de questions pour cette émission sur les accidents de travail. On va terminer parce qu'on on arrive au terme de cette émission par la question de Noémie de Reims. J'ai entendu dire que les accidents domestiques... Non, c'est pas ça. J'ai perdu la question par rapport à l'aménagement des postes de travail. Voilà, Gilles de Montmirail. J'ai subi un accident de travail sans gravité. Mon employeur me propose un poste aménagé. Suis-je obligé d'accepter et à quoi dois-je m'attendre?
Alors là, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question puisqu'il nous manque des éléments, on n'a pas le contexte exact. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement que les employeurs peuvent faire des aménagements de poste pour faire revenir la personne à leur poste de travail. Ça va être notamment dans les cas d'arrêt assez long, pour réintégrer un petit peu la personne à la vie de l'entreprise. Bon là, on manque un petit peu de détails pour savoir exactement ce qu'il en est.
Un poste aménagé, c'est par exemple, je me blesse au poignet et je dois faire de la manutention. On peut m'envoyer dans un autre service pour faire un autre travail qui nécessite pas forcément d'utiliser mon poignet.
On peut l'imaginer, même si là l'exemple du poignet, ça peut être un petit peu compliqué, mais une cheville tordue ou autre, on pourrait imaginer effectivement un aménagement de poste.
Donc ça peut être proposé par l'employeur, mais c'est pas obligé de la part du salarié de l'accepter.
Alors faut évidemment que ça soit en lien avec les compétences de la personne, et en fonction du cas de figure, on peut aussi se tourner vers le médecin du travail pour voir si l'aménagement est tout à fait correct par rapport à la pathologie.
Voilà, les accidents de travail, vastes sujet. Un accident toutes les 10 secondes
accident
en France.
Arrêt.
Accident avec arrêt, effectivement. Merci Émilie Charton, ingénieure santé, sécurité au travail pour l'APAV. À bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, le rendez-vous emploi de France Bleu.
Les experts à réécouter en podcast sur francebleu.fr.